premier étage. Je travaille en centrale pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je pionçais dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pas de son commencé à l'aile gauche de la tour. Déjà tu mets pas de fête à saccager les pions. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes et y'a du baston dans la tour. Mec, ça va saigner. Pour les mains qui disent sortez de la bande de rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas. Allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. Dans les gars suffocants. On a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps, y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Tu as fait les mecs, ça va saigner. Allez avec moi. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Tu as fait les mecs, ça va saigner.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Vous êtes bien sûr Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée, comme tous les vendredis de 19h à 20h30. Et si on passait aux présentations qui vont aller très très vite aujourd'hui. Enfin, il y a Arthur.
Salut.
Il y a Alex.
Salut tout le monde.
Il y a G au bocal. Il y a Sylvia qui vous salue. Il y a Arthur qui est en retard, il y a Serge qui n'est pas là, il y a Greg qui n'est pas là, et il y a la famille de Jimouni qui devrait pas tarder à nous rejoindre sur le plateau studio, je ne sais pas comment on dit, et Alex qui va nous faire une petite présentation de ce qui nous attend dans cette superbe émission.
Ouais, et pour commencer, déjà pour nous contacter tout au long de la semaine, c'est au 07 52 40 22 48. Et pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris, l'envolée-fpp. Et donc, comme tu disais, cette semaine, on va commencer déjà par lire deux lettres de Youssef et de Dorfer. Et en fait, ça revient sur la question de la peine de mort, de la prison à vie. Et parce qu'il faut peut-être rappeler juste que cette année, en fait, ça fait 40 ans qu'ils ont aboli la guillotine, mais que du coup, ils l'ont transformée par la prison à vie. Et donc, c'est une nouvelle forme de peine de mort qui s'est mise en place et qui accompagne tout un tas d'autres types de manières de tuer, quoi. Et ça, on va y revenir avec la famille de Jimouni. C'est ce que tu racontais. Donc, c'est un prisonnier qui est mort à Meaux, donc à Meaux-Choconin, qui est dans le 77. Et... Et voilà, du coup, cette semaine,
Qui est mort sous les doigts des surveillants pénitentiaires, donc qui est mort. Pour l'instant, il n'y a pas de procès, mais à ce qui se dit assassiné.
Ouais, c'est ce que disent les prisonniers qui ont pris la parole. C'est dire
et certains matons et qui témoignent.
Ouais, aussi. Et on était revenu là-dessus. On en a pas mal parlé depuis janvier. Il y a eu aussi la sœur de Jimoni Kura qui avait appelé pendant le mois de février et qui nous avait expliqué un peu toutes les démarches qui étaient en cours. Et du coup, là, on va vous lire deux lettres. D'abord une de Youssef et après une de Dorfer. Mais peut-être juste pour commencer l'émission, moi, je voulais revenir sur un tout petit truc. C'est que cette semaine, dehors, les politiciens, en vrai, ils se sont plutôt lâchés. Ça a été plutôt une semaine assez tendue,
assez vrai. Plaisante pour eux.
Ouais.
Ça fait du bien. Hein.
Voilà, mais encore une fois, sur le dos des prisonniers, toujours dans un truc plus sécuritaire, il faut rappeler peut-être que dans un an, c'est la présidentielle et que quand la présidentielle approche, et ben, en fait, c'est tout le moment où les politiciens ils se mettent à avoir un discours de plus en plus sécuritaire pour qui
va être... Ouh, les violences dans les cités. Ouh là 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 là.
Voilà. Et c'est en fait particulièrement le cas depuis quelques semaines parce qu'ils se sont servis de la mort de quelques keufs, à gauche, à droite, quoi, et qui font que, enfin, ils se sont servis de ça pour faire des histoires nationales autour de ça. Pour rappel, hein, c'est des manifs de keufs, comme on n'avait pas vu depuis 4 ans ou 5 ans, des manifs de gens armés qui sont des vrais coups de pression au pouvoir en place, quoi, qui ont eu lieu juste après la mort de ces keufs, mais aussi après un verdict, celui de Viry Châtillon, on en avait déjà parlé, où les keufs, ils ont jugé trop laxiste qu'il y ait quelqu'un qui prenne 18 ans de prison, et surtout qu'il y ait des gens qui soient acquittés, alors que c'était démontré que juste les keufs avaient fait n'importe quoi dans cette affaire, quoi. Mais enfin, juste pour dire que ça arrive déjà dans un climat qui est un peu tendu, et là, le lancement de la présidentielle, en fait, ça fait que... ça fait que tout le monde est en train de se lâcher. Ça a commencé par une interview de Dupond-Moretti, encore une fois, là, cette semaine, donc le ministre des tribunaux et des prisons.
Il nous fatigue beaucoup, lui, hein.
Ouais, ou profitant de l'occasion, là, donc de la mort d'un policier à Avignon. Ils ont sorti une nouvelle idée qui est maintenant que pour toute personne qui serait condamnée pour meurtre ou tentative de meurtre sur un keuf, il y aurait les 30 ans de peine de sûreté qui seraient appliqués. Et donc, en fait, on assiste encore une fois à l'extension des motifs des peines de sûreté qui avant étaient là pour le terrorisme, pour des trucs...
Ouais, ça, faut rappeler, en fait, il n'y a pas si longtemps encore, la peine de sûreté maximale, c'était 20 ans. Ça a été, on a donné des dérogations pour le terrorisme. En fait, on a dit, les terroristes, eux, ça va pouvoir être 30 ans. C'est-à-dire, en gros, c'est la peine maximale où on peut te garder, enfin, que le juge peut prononcer au moment de la peine où tu vas ne pas sortir avant...
Perpète.
Voilà, avant ces 30 ans-là. Et on voit qu'en fait, le truc qu'on dit toujours ici, cette logique d'extension des outils de répression qui d'abord visent quelques-uns de plus en plus de personnes, là, c'est ça, en gros. C'est, maintenant, toute personne qui attaquera les keufs pourra avoir une peine de sûreté jusqu'à 30 ans comme un terroriste.
Ouais, donc il dit peine de sûreté, en fait, dit pas possibilité de demander même une remise de peine ou quoi que ce soit avant 30 ans, quoi. Donc c'est un 30 ans plein minimum, quoi.
C'est la perpétuité, c'est 30 ans, voilà. Normalement, à la barre, tu peux prendre 30 ans avec une peine de sûreté à 22, ça veut dire que tu peux pas demander d'aménagement de peine avant ces 22 ans. Là, ça sera 30 ans plein. Il y aura pas de... C'est la continuité de ce qu'il a fait, il y aura pas de remise de peine, tout simplement.
Ouais, et pour dire, enfin, là, on s'est vraiment habitué à ces peines hyper longues, mais pour dire, enfin, parce que là, comme on disait, c'est aussi dans il y a les 40 ans, là, de la soi-disant abolition de la peine de mort, en fait, de la suppression de la guillotine. Et à cette époque-là, en fait, cette longueur de peine, c'était pas imaginable pour beaucoup de gens. Là, on s'y est complètement habitué. Et aujourd'hui, pour tout le monde, 30 ans, ça paraît banal. Mais, c'est anecdotique. Mais en fait, au moment de la Révolution française, bon, ça date. Mais les gens disaient, une peine d'enfermement au-delà de 10 ans, ça est comme la peine de mort. Et aujourd'hui, on se considère on est bien humaniste, on n'a pas la peine de mort. Par contre, il n'y a pas de problème à enfermer quelqu'un 30 ans.
Non, on les enterre vivants. C'est tout simplement ça. C'est qu'il y a des gars, il y a des gens en France qui sont enterrés vivants dans les geôles de l'État.
Ouais, puis il y a un truc vis-à-vis du temps. Juste après, on passe aux lettres, mais il y a un truc vis-à-vis du temps aussi. C'est-à-dire, maintenant, quand tu te mets à travailler, tu sais que en fait, t'en as pour 45 ans de cotisation pour ta retraite. Tu prends un crédit, c'est sur 25-30 ans. En fait, c'est toutes ces logiques de temps-là qui s'appliquent. Et du coup, c'est devenu une comptabilité, quoi, ce temps-là. Enfin, c'est la vie, quoi. Ça se quantifie comme ça, et c'est la même chose avec la peine de prison, quoi. Mais en tout cas, c'est des véritables peines de mort qui sont prononcées à ce moment-là, ou qui vont être prononcées une fois que le projet de loi il va passer, parce qu'on doute pas trop que, malheureusement, ça va passer, quoi.
Ouais, et du coup, par rapport à ces 40 ans, là, il y a plusieurs prisonniers, comme à chaque fois, enfin, il y a souvent des prisonniers, en fait, qui parlent de cette non-abolition de la peine de mort. Et là, il y a plusieurs prisonniers qui nous ont écrit, c'est là les deux lettres qu'on va lire. Et la première, donc, c'est une lettre de Youssef. On a lu plusieurs lettres de lui ces derniers mois. Il est à la maison d'arrêt d'Angoulême où il prend assez cher. Il racontait déjà la surpopulation, bien sûr. Ils sont quatre dans la cellule. Et il avait fait aussi une longue lettre qu'on avait lue à l'antenne, où il parlait des conditions du mitard, comment les trucs qu'on connaît, mais comment la torture blanche, comment en fait on te met la pression, on te pousse à bout, et puis une fois que t'as craqué, on te fout un compte rendu d'incident et on t'envoie au mitard, quoi.
Dimanche 2 mai 2021. Salut. Désolé de répondre si tard, encore des couilles carcérales, je ne suis jamais tranquille. Du racket maintenant. Ils m'ont prélevé 100€ le mois dernier et 100€ ce mois-ci. Un matelas de 11 vaut une blinde, ils abusent. Surtout qu'il n'est pas dégradé. J'y ai quand même dormi 15 jours dans des conditions dignes d'un bagne. J'y ai également bu l'eau des chiottes, les conditions vous les connaissez déjà. J'attends toujours mon transfert, je n'en peux plus ici, trop c'est trop, ils me poussent à la faute, et toujours ces trois qui me menacent si je dépose plainte. Tous les jours sont compliqués, je m'endors avec des angoisses, ils sont capables de tout, heureusement il y a des bons, et là je relâche la pression. On a tous quelque chose à dire, à force de maintenir la pression, peut-être changeront-ils ce système archaïque et destructeur. Dommage pour le numéro 52 de l'envolée. La vérité dérange, et oui, la prison tue, la prison assassine, c'est établi et réel. Faut que Super Dupont se réveille, il signe à la pointe de son stylo des textes insensés, il ne connaît rien du monde carcéral. Il a qu'à bosser à 2€ de l'heure, lui qui m'avait demandé 7 000€ d'honoraires. Le monde est petit. Les détenus se lèvent le matin, nous ne sommes pas tous avec une console à la main, nous payons tout. TV, frigo, cantine au prix prohibitif, raquette téléphonique. Pas de chômage pour nous, pas de retraite non plus. Exploitation, asservissement, annihilé, déshumanisé. Machine à broyer l'humain. Faut repenser les peines, leur donner du sens, nous valoriser. C'est par là que passe la réinsertion. Faut qu'ils fassent leur job, point. On ne demande pas la lune, juste le minimum. Ah, la peine de mort. Sacré bas d'inter. Merci, merci. Grâce à toi, nous avons des peines de dinosaures. 30 ans, perpète, est égal la mort à petit feu. En septembre 1981, tu aurais dû rester silencieux ou alors plafonner les peines. Passer d'une peine rétributive à une peine restauratrice, comme nos amis canadiens et suédois aussi. Mais bon, passe 48 heures en tôle et tu seras vacciné avec un taux de 100% zéro récidive. Visite tes prisons. 19 condamnations, la dernière le 30 janvier 2020. Ça devrait t'interpeller, non ? Branche ton sonotone, écoute la détresse, la souffrance, la destruction qu'engendrent tes prisons. Une mort lente et silencieuse. Ah, il y a un truc qui me revient. Une phrase d'une chanson de Neil Young. Il vaut mieux brûler franchement que mourir à petit feu. C'est ton dessein, hélas. As-tu réfléchi, mon cher Badinter ? Tout ce que tu as engendré, c'est la destruction. Une fracture géante, ouverte, qui embarque nos familles, nos compagnons, nos amis. Notre vie, tout simplement. C'est sûrement parti d'un bon sentiment, mais le constat est alarmant. Un mort tous les 3 jours. Un ami s'est foutu en l'air à sa sortie, le 9 juillet dernier, tellement la prison l'a traumatisé. Aujourd'hui, ton remplaçant va faire pire, embraser les prisons. Vous n'avez rien compris tous les deux. Nous sommes des humains, pas des bêtes. Prenez exemple sur nos voisins européens. Je vous ferai une suite. Je tiens le coup. Youssef.
Ouais, juste pour dire, du coup, pour préciser le truc dont il parle dans la lettre, quand il dit un mort tous les 3 jours, bon, on le répète souvent, mais en fait, tous les 3 jours, en moyenne, il y a une personne qui meurt en prison en France. Voilà.
Que ce soit par suicide, par manque de soins, par mort suspecte. Voilà, il y a...
Et quand il parle du numéro 52, ça fait écho à la censure du dernier numéro du journal, qui, justement à cause d'un dossier sur les morts en prison qui s'appelait, je crois, peine de mort en prison, et qui a été, que l'AP a censuré à cause de ce dossier. Après, ouais, il y a 2-3 trucs, c'est sûr, nous on n'est pas d'accord sur ces trucs, on ne va pas dire quelle justice il faudrait.
Ouais, et peut-être qu'on va passer un petit peu de musique, et après on va réenchaîner sur la discussion.
police enforcement, racial fever. When they scarred my wrist, it got deeper. From the Windrush plot, it got peaker. When they shot Ahmad, they got realer. Then it brought back visions of Eric. Like, look at that cop and where his knees are. If you burn that house to the ground, I'ma fan that flame till they can't breathe either. I seen my dealer. To the left of me there with a teacher. To the right of me there with a wise man. And we all fight for the same reason. Talk of conscience, I've got a conscience. But look at that cunt and where's knee done. I heard that he went round town with a mate. Why it's great again capping in the evening. I know that my grandma's reeling from wherever she's watching this. I know that my dead friend's screaming, trying to tell me how to stop this shit. Give me back my freedoms. These shackles with the locks don't fit. Ay, give me back my peoples. Or I'm coming with rocks and sticks. And they coming with shotties and AKs. And we coming with fingers that twitch. From a lifetime on the defensive, from some disgusting evil pigs. My nigga just came out of jail, asked for one crime that he never even did. My next bro got locked cause of cocaine. Like they didn't put a cocaine on his strip. And then you got man like OJ. You don't even want to rep the ting. You corrupted the mind of our idols and distracted the lives of our kids. And they don't wanna see us in parliament. And they don't wanna see us in flicks. And they don't wanna see us in public. And their whole body weigh on our ribs. And we scream but they just keep leaning. And we plead but the glove don't lift. And we beg and we cry and we suffer. And somehow the grudge don't shift. And it gets to the point of your lifetime where you clock that you've got one to live. So you grab something heavy to the right of you, oh, look who it is, it's a stick. And you run down the road to the protest with so much hate you could trip. And you spray at the dearest police like Liam Neeson but switched. And the cops come, now they got a reason. And you're locked up, now you're a myth. Oh, now you're a crazy black man. Like you ain't been tortured from a kid. Like you ain't been tortured from an embryo. Like you ain't been tortured from a cell. Like you ain't had the fear of a cell in your mind as a young black man that does well. Let alone a black man with some issues. Let alone a black man that fell. Meanwhile you got Andrew and them man doing what they're doing, never went Joe. Enforcement, racial fever. When they scarred my wrist, it got deeper. From the Windrush plot, it got peaker. When they shot Ahmad, it got realer. Then it brought back visions of Eric. Like, look at that cannon where his knees are. If you burn that house to the ground, I'ma fan that flame till they can't breathe either.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée. Nous avons le plaisir de recevoir la famille de Gimoni. Mais qu'est-ce qu'on... Alex, tu parles.
Ouais, avant ça, on voulait juste continuer un tout petit peu ce qu'on disait avant. Donc juste, on voulait continuer en lisant la lettre de Dorfer. C'est aussi une lettre qu'il nous a écrite. Parce que, enfin, toujours avec le même truc de répondre...
Expliquer qui c'est ce monsieur déjà. C'est quelqu'un qui est en prison depuis qu'il est mineur. Aujourd'hui, il en a, enfin, ça fait 21 ans qu'il est incarcéré. Il a décidé de ne pas se laisser mourir en détention et de se battre contre eux. Il a fait plusieurs prises d'otages, dont celle de la santé où il avait pris le psychologue ou le psychiatre, je ne sais plus trop, en otage et que lui a décidé de ne pas porter plainte et qui a été viré de l'administration pénitentiaire parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il ne portait pas plainte contre ce prisonnier. Et il a expliqué par la suite qu'il comprenait son geste, que c'était arrivé à un certain moment compréhensible que les gens... après tant d'années de prison, enfin décide de parler de ce qui se passe à l'intérieur. Et dernièrement, il est incarcéré aujourd'hui à Saint-Maur, dans une centrale que beaucoup connaissent ici, dont on vous parle régulièrement, puisque ça a été le drame de Fabrice Borromée, à qui on a jeté une grenade assourdissante dans les douches où il a perdu Louis. Et donc il est incarcéré dans cette tôle où dernièrement il a fait une tentative de suicide. Et quand on voit que cet homme qui est plein de force et qui est plein de comment dire de qui se bat à l'intérieur et qui craque de la sorte, c'est qu'il s'y passe vraiment des choses graves dans cette prison.
Ouais. Du coup, on va lire la lettre. Dedans, il présente très bien là, tout ce que tu viens de raconter. Et après, on revient vite fait dessus. Quoi.
Cher lecteur, devrions-nous nous réjouir des 40 ans qui nous séparent de quand on entendait au matin le bruit sourd du métal tombant sur le cou d'un homme. Ce même homme qui avait pu, quelques minutes avant, par cynisme, avoir une cigarette et un verre de whisky, comme si sa pauvre clope et ce verre allaient annuler toute pensée de ce qui l'attendait. Mais pourrions-nous dire que la peine de mort a été abolie, ou simplement remplacée par des peines de prison qui, à quelques égards, prêtent une sanction égale, voire plus dure. Moi, Francis, j'ai été enjôlé à 16 ans, et aujourd'hui j'ai 37 ans. 21 ans de détention effectuée, et à ce jour, libérable en 2060, donc dans 39 ans. Et j'ai encore un jugement qui m'attend en cour d'assises, où on va minimum me coller 10 ans. Précision. Pour avoir retenu 2 surveillants en otage, sans violence, sans un seul coup porté, ni même une insulte. Simplement retenu contre leur gré dans ma cellule, avec à boire, à manger, fumer, télé, en quelque sorte ils ont été détenus pendant 5 heures. Réponse de la justice à mon égard, par 6 prises d'otages pour m'insurger du traitement des longues peines et des détenus que l'on éloigne de leur famille. La réponse a été 5 condamnations. Première, 10 ans. Deuxième, 10 ans. Troisième, 13 ans. Quatrième, 12 ans. Cinquième, 14 ans. Et la sixième ? À ce jour, 59 années de prison pour des faits où aucun coup n'est porté, aucun acte inhumain n'est commis. Pour ceux qui me connaissent, un psy que j'ai retenu en otage, le docteur Cyril Canetti, se bat et témoigne à chacune de mes actions pour dénoncer la machine à fabriquer des bombes humaines que sont les QI, quartiers d'isolement. Alors franchement, il y a des jours où je me dis qu'un bon coup de guillotine serait libérateur pour moi. Rappelez-vous à l'époque des prisonniers de Clairvaux qui avaient écrit un magnifique et désolant pour l'État article pour demander à monsieur le garde des Sceaux la peine de mort pour eux, car ils étaient condamnés à passer leur vie derrière les barreaux. N'est-ce pas plus barbare que de laisser des êtres humains enfermés dans 9 mètres carrés pendant 30, 40, 50 ans ? Oui, voilà, en tout 13 ans sur mes 21 ans de détention que je suis au quartier d'isolement. Depuis ma dernière action à Condé-sur-Sarthe, cela fait 2 ans que j'ai des grilles aux fenêtres. Une grille avant la porte de cellule. On me menotte pour chaque sortie de cellule, on m'attache les mains par une ceinture pour chaque audience. Pourtant, voilà 2 ans que j'ai clairement renoncé à ce mode d'action et que je n'ai aucun rapport, aucun incident. Je travaille au quartier d'isolement. Je ne demande pas de pleurer sur mon sort. Mais pensez-vous qu'en traitant les détenus ainsi, on a vraiment aboli la peine de mort ? Moi, je vous dis non. Je vous dis qu'on a aboli le droit d'ôter la vie. Car la mort peut être sociale, morale, psychique, etc. Donc je pense que la France, pays fondateur des droits de l'homme, devrait se regarder en face avant de vouloir donner des leçons aux autres. État. Pour moi et pour vous, je vous le dis, le système ultra-répressif qui est mis en place depuis l'élection du président Macron est dangereux pour la société. Moi, encore, je reste accroché à la vie, et je me bats pour ne pas devenir ce détenu rempli de haine et de remords face à cette guillotine virtuelle qu'est le traitement des détenus dans les quartiers d'isolement de France. Réveillez-vous, chers lecteurs. Demain, dans nos rues, vous allez voir des hommes qui ont subi la torture psychologique, la privation de toute forme de sociabilité, de toute forme de bienveillance. Et sans même s'en rendre compte, ces pauvres hommes et femmes vont sortir et avoir une sévère envie de se venger de ce que l'on a fait à ces êtres humains. Comment les plateaux télé ? On entend qu'en France, la prison à vie n'existe pas ? Qu'on ne fait pas sa peine entièrement, qu'on est quasi bien en prison. J'en suis la preuve, le fruit même. J'ai été emprisonné à 16 ans. C'est pas la prison qui m'a élevé, m'a éduqué. Le résultat, 86 ans de prison, alors que j'étais entré pour effectuer 4 ans et demi. Et je ne suis pas une exception. Beaucoup de jeunes détenus condamnés à des petites peines finissent par passer 20, 30 ans en prison. Alors oui, c'est bien d'avoir évolué et fait des efforts pour essayer d'améliorer les conditions de détention. Mais sachez qu'à ce jour, il existe des prisons où on laisse moisir des hommes dans 9 mètres carrés, à menotter à l'intérieur d'une prison les détenus. Ça fait 2 ans que je passe mes mains à travers une ouverture de 50 cm pour que l'on me passe une paire de menottes avant même d'ouvrir la porte, que l'on me serre les repas à travers ce même trou. Alors quand le ministre de la Justice va entendre que l'hyper-répression ne fait qu'attiser la colère et la haine ? Et cela amène les agressions de personnel, les suicides, les détenus qui se tuent à petit feu en avalant chaque jour des doses de médicaments. Quand est-ce que M. Moretti va se dire que garder des détenus au quartier d'isolement en cellule 23 heures par jour, ça ne sert à rien, et ne fait que fabriquer les futurs tueurs, terroristes, etc., alors qu'on est en 2021. Moi qui ai passé 2 décennies en prison, je vous le dis, il y a encore 10 ans, les conditions de détention étaient meilleures, plus humaines. Et il y a 10 ans, je n'avais pas de menottes, je ne me faisais pas servir le repas par une trappe comme un animal aux os. Et pourtant, j'étais le même. Cela fait 2 ans que j'essaye de faire entendre à l'administration pénitentiaire que j'ai besoin d'espoir et d'encouragement. Pas que l'on vienne me dire chaque jour « ton passé, ton passé ». Et mon futur, et mon présent. Je voudrais pouvoir faire des choses pour que les directions comprennent que quand on a en face un homme calme et respectueux, on ne réagit pas en lui mettant chaque jour une paire de menottes, car cela ne m'encouragera pas à être constant. J'ai vraiment changé de vie en 2 ans. Malgré cela, je reste un détenu qu'il faut casser, briser, en se disant qu'ainsi il ne recommencera plus. Mais nul besoin de ça. Mon simple comportement devrait les amener à m'accompagner vers l'espoir qu'être calme et respectueux, bah ça paye. Non, on considère que je mérite la sanction en plus de ma peine, d'être traité comme un animal. Bref, pour terminer cet écrit, je repense à ces hommes qui, en 1980, se faisaient réveiller en pleine nuit. On ouvrait leurs portes de cellule, on leur coupait le col de leur chemise, on leur disait « ça va aller, tiens, fume ta clope, bois un verre et allonge-toi sur cette planche en bois qui sert la mort ». Et voilà, quelques minutes plus tard, il avait été décapité. Alors 40 ans après, je rends hommage à ces détenus qui, au petit matin, pas à pas, allaient droit à la guillotine. Mais à ne surtout pas oublier ce jour, la guillotine a disparu, mais la mort est toujours là. Pensez à nous, c'est penser à vous. Ne l'oubliez pas. Francis Dorfer.
Ouais. Bah, déjà, merci à toi pour cette lettre, quoi. Enfin, il y a quand même beaucoup de force pour quelqu'un qui vient de passer 13 ans en quartier d'isolement. Enfin, je sais pas trop quoi dire, quoi, mais c'est... On en a souvent parlé ici quand on lisait des lettres de Fabrice, de l'infâme, sur les effets du quartier d'isolement, sur comment ça t'empêche de réfléchir, en fait, au bout d'un moment, le fait de ne pas avoir d'humain avec qui tu peux échanger. On a lu une lettre la semaine dernière de Libre Flo, aussi, qui est au quartier d'isolement de Bois d'Arcier, qui racontait ça aussi. Et sinon, le truc, c'est qu'en fait, ils racontent très bien deux trucs, c'est-à-dire que quand ils ont aboli la peine de mort, ils ont supprimé aussi les confusions de peine. Ce qui fait que maintenant, tu peux prendre des peines de prison à vie. Donc la confusion de peine, en tout cas, elle est plus automatique. Et du coup, des gens comme lui peuvent manger des 10 ans en permanence en interne. Et c'est un truc dont on parle assez régulièrement ici, en fait. Comment d'abord ils poussent les gens à craquer, en fait, en les éloignant de leurs proches.
Les confusions de peine. Parce que les confusions de peine, en fait, c'est quand tu as plusieurs peines. Et les plus petites sont aspirées par la plus grande. C'est-à-dire que si tu prends 16 ans et 18 ans, ben, tu prends 18 ans et les deux autres, elles sont... voilà. Et donc ça n'existe plus. C'est pour ça, par exemple, que Christophe Kider est libérable en 2052 sur le papier, parce qu'il il a fait des prises d'otages, il a fait des tentatives d'évasion et des évasions, et c'est pas confusionnable. Voilà. Donc, effectivement, arrivé à un moment, les gars, quand t'es en terre et vivant, forcément, tu peux pas laisser faire sans rien dire. C'est pas possible. Voilà, et c'est ce que j'ai été très émue par cette lettre parce que j'ai découvert je l'ai pas lu en vrai, j'aime pas lire le courrier avant les émissions parce que sinon j'ai plus cette même émotion et je ressens pas trop les choses à chaud comme ça. Voilà, j'ai été submergée par l'émotion parce qu'on voit un homme presque brisé qui parle et arrivé un moment, faut que Dupond-Moretti, qui a pris des millions et des millions et des millions sur le dos de ces personnes incarcérées, ouvre les yeux et qu'il est en train de faire des lois dramatiques et très 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 graves pour le futur.
Le truc, c'est que en vrai, Dupond-Moretti, il est très conscient de ce qu'il fait, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un.
Pire.
C'est qu'il n'y a pas d'excuse derrière tout ça, quoi. Il n'y a même pas l'excuse d'une administration qui lui mentirait ou quoi, en fait. Juste, c'est quelqu'un qui connaît ce que c'est la prison, puisqu'il il y a eu beaucoup de ses clients qui sont passés. Bah, Youssef en parlait, quoi. Et le truc, c'est aussi, il parle de Condé. En fait, quand on parle des quartiers d'isolement, il y a quand même des prisons qui sont particulièrement hardcore. Et Saint-Maur, Condé, Vendin, tout ça, c'est des prisons qui ont vraiment été construites pour briser des gens, quoi. Et c'est quelqu'un qui a survécu, en fait, à toutes ces prisons-là et qui a réussi à se battre, en fait, à chaque fois. Et du coup, il y a juste beaucoup de force, quoi. Enfin, beaucoup de force à lui. Et un dernier truc, moi, que je voulais dire en écoutant sa lettre, c'est qu'il revient sur les questions d'élimination sociale. Et ça, c'est une parole d'un procureur d'il y a quelques années, en fait, en demandant une peine comme ça. De demander une peine d'élimination sociale, quoi. Enfin, je veux juste dire qu'ils sont en face, eux, ils sont hyper conscients de ce qu'ils font et que quand tu mets comme ça des peines de prison à l'infini envers quelqu'un, en fait, juste il disparaît de la société, quoi. Et comme tout le monde, en fait, il survit puisqu'il arrive à avoir des liens avec l'extérieur. Faut pas hésiter, même s'il y a des gens qui ont envie de répondre quand d'autres quartiers d'isolement ou des gens à l'extérieur qui ont envie de lui apporter du soutien. Faut pas hésiter non plus à nous écrire et on transmettra la...
Monsieur.
On transmettra la réponse, quoi.
On passe un petit peu de musique.
Bonjour. talk about the science of how things break, how the heart breaks, how the age founders shatters with no one listening, how the mind quakes, how we lose all that matters. Oh, the music of the bones, music of sage and white stones. Let's talk about the art of how things break. Things that were hard to make. Things like peace and love and need. How the nations shake. How the good is lost to the fake. Oh, breathe change by osmosis. Change on the music of cosmosis. Sufis sing about the music of how things turn. Things the other ones want to bury or burn. Things like unity, friendship, relativity. Things that went dead will mourn. How the music runs in the stream. How can we in these troubled times dream? Oh, the spirits dancing in the slipstream. Power and fire in the drum dream.
Yeah. She was looking for a prince, so now she's hitting the road. She tried kissing a frog, oh now she's licking a toad. Spiritual girl, she's got a story to tell. She taught me to love myself, forget everyone else. Forget and I forgive, I don't give it attention. How you feel about me, it's just a reflection. I'm out of my ego, I'm back into space. Hold me in your arms and feel the connection.
Osmosis. Osmosis. Yeah, man.
The present moment began with fire, and still it burns.
Osmosis.
The present moment began with fire, and still it burns.
Yeah.
It began with water.
Osmosis.
And still they drown. And still they drown.
Yeah, man.
On the margins of Europe. The present moment began with fire. And still it burns. Dreams made of flesh.
She was looking for a prince, so now she's hitting the road. She tried kissing a frog, oh now she's licking a toad. Spiritual girl, she's got a story to tell. She taught me to love myself, forget everyone else. Forget and I forgive, I don't give it attention. How you feel about me, it's just a reflection. I'm out of my ego, I'm back into space. Hold me in your arms and feel the connection.
Yeah. What's going to change our cows? Check it out. When will the story of our nation change and shine? Cosmosis. Cosmosis.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée, comme tous les vendredis de 19h à 20h30. Pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité, Paris 19e. Pour nous appeler, je ne connais pas le numéro.
C'est au 07 52 40 22 48. Et pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité.
Je viens de dire, il ne m'écoute pas cet homme. Et donc, on reçoit la famille de Gimoni. Donc on va vous présenter. Déjà, il y a Charlotte, tu es sa femme.
Ah ouais, c'est ça.
Et on est avec ses deux tatas, Ounemata et Mariam. Est-ce que tu peux nous rappeler, bien évidemment, l'histoire de tout ce qui s'est passé ?
Bien sûr.
Du meurtre.
Ça marche. Ouais, du meurtre, c'est ça.
Du meurtre, c'est pour moi, c'est un meurtre.
C'est le mot, c'est le cas de le dire. Déjà, merci de nous recevoir ce soir.
C'est merci d'être venue, surtout.
Avec grand plaisir. Ça a commencé, donc mon mari il a été incarcéré, ça faisait 3 semaines qu'il a été incarcéré en tant que prévenu, parce qu'il était en attente de son jugement à la prison.
Donc présumé innocent.
Exactement, à la prison de Meaux-Choconin. Le 25 janvier, alors déjà moi depuis la veille j'avais pas de nouvelles, je me suis un peu inquiétée, parce que je l'ai eu juste avant qu'il parte en promenade. Et je devais le revoir le soir, hein. Et je me suis un peu inquiétée, je me suis dit bon... Peut-être qu'il est parti au mitard, tu vois, il y a cette probabilité. Le lendemain, pas de nouvelles, et le lendemain, donc 24 heures après son fameux accident, on nous appelle. C'est l'hôpital qui nous appelle pour nous dire qu'il est dans le coma, qu'ils l'ont reçu la veille au soir, qu'il est dans le coma et qu'il aurait fait une crise cardiaque. Et qu'il s'est jamais réveillé de sa crise cardiaque, et que son état était très grave et apparemment qu'il n'allait jamais se réveiller, puisqu'effectivement, il a été déclaré en mort cérébrale. Donc, s'ensuit plein de questions. L'hôpital qui nous appelle, la prison n'est pas prévenue, donc 24 heures plus tard.
On se déplace. Au bout de 24 heures, la prison ne vous prévient pas qu'il est...
Okay. Ils ne nous préviennent pas. Donc, je crois qu'ils ont fini par appeler ma belle-mère... Le soir même, j'ai un doute. Ouais, je crois qu'ils l'ont appelé après la... Ouais, c'est ça. Ils l'ont après appelé l'hôpital. Donc, on a d'abord eu l'hôpital. Ensuite, la prison nous a appelé en nous disant que soi-disant, ils n'avaient pas trouvé notre numéro de téléphone. Ils n'avaient pas de contact.
Alors, c'est un mensonge le plus complet. Et ça, on ne va pas me dire le contraire, puisque quand tu arrives en prison, tu passes par le greffe.
Ouais.
Et quand tu es reçu par la SPI, parce que quand tu es... Je reprécise encore, même si tout le monde le sait, je suis une ancienne prisonnière, je sais comment ça se passe quand tu rentres en prison. Mmh. Et donc, quand tu rentres en détention, tu es reçu par la SPI, le directeur de détention, tu passes par le greffe, qui t'enregistre, qui prend tes empreintes et tout. Et la SPIP, elle demande, est-ce que vous voulez qu'on appelle quelqu'un de votre famille pour pouvoir savoir si vous voulez des affaires et tout, au cas où. Voilà, et c'est son travail. Donc, ils le savent, ils ont un numéro, en vrai.
Bien sûr, voilà. Ouais, ça, j'en doute pas. Donc, nous, on nous dit qu'on ne peut pas venir à l'hôpital. Donc, c'est vrai qu'il est environ 18h, que les visites, elles ne sont plus permises. Je vais quand même à l'hôpital. Je prends, parce que qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre ? On me dit, mon mari est dans le coma, il a fait une crise cardiaque.
Les pires que j'y
vais aussi. J'emmène ma belle-mère, on va à l'hôpital et on nous refuse l'accès. On nous dit que ce n'est pas possible, que le médecin ne pourra nous recevoir que le lendemain, donc le mercredi 27 à 11h. Donc, on attend. On attend, j'attends en bas de l'hôpital, personne qui me laisse monter. On me dit de rentrer chez moi. Comment tu veux que je rentre chez moi ? C'est pas possible, je sais pas ce qui se passe. J'ai pas eu le médecin au téléphone, donc comment ça, il a fait un arrêt cardiaque ? Il est en bonne santé.
Et puis il est jeune.
Ouais, il a 28 ans. Non, c'est pas possible. Ouais, exactement. Donc on arrive le lendemain, on finit par rentrer chez nous. On retourne le lendemain à l'hôpital. Et donc on reçoit, on nous met dans une pièce, on voit les médecins, les infirmières qui nous disent qu'il aurait fait un arrêt cardiaque. On ne sait pas pourquoi, qu'il recherche la cause de l'arrêt cardiaque, qu'il a des traces sur le corps, notamment au niveau de la tête, un énorme hématome au niveau de la tête, une énorme bosse. La médecin me dit qu'elle ne sait pas d'où ça vient, ne sait pas d'où ça provient. Que son état est très inquiétant parce que son cerveau ne réagit plus et que... Et que probablement il ne se réveillera jamais. Et effectivement, il ne s'est jamais réveillé puisqu'il est décédé une semaine plus tard. Je sors, on va voir mon mari, donc la police est là, la police est dans sa chambre, la police est sur les lieux. Évidemment, on nous fouille, on nous fouille, c'est la procédure, on nous dit qu'il est prisonnier, qu'il est toujours détenu, que son statut c'est détenu, que la prison en fait est venue, certes il est à l'hôpital, mais c'est comme s'il était toujours en fait à Meaux. On nous dit c'est comme s'il était toujours à Meaux, il est prisonnier, donc la police est là, ils doivent nous fouiller, ils nous palpent.
Mais quand on rentre en prison totalité. En tant que visiteur, on passe sous un portique, mais on n'est pas fouillé.
Bah, ils font ça, ils font nos sacs.
Vous avez été palpé, c'est ça que je veux savoir ?
Ouais, elles nous palpent. Ouais. On a une femme qui nous palpe. On nous passe le détecteur de métaux. On fouille nos sacs. On fouille tout. On arrive dans la pièce, donc évidemment, il reste avec nous. Et on nous interdit de le toucher. Et on me dit, si vous le touchez, il y a un policier qui me dit, si vous le touchez, bah, votre droit de visite, il saute. Donc, voilà. Donc là, il me dit ça.
Mais il reste dans la même salle que vous ?
Ouais, en fait, il y avait un petit... avant de rentrer dans la chambre de mort, il y avait un sort de petit sas, juste
d'accord.
avant. Donc on rentrait dans le sas, puis dans la chambre, ils étaient là, dans ce sas-là. Mais ils étaient... oui, c'est comme s'ils étaient à la porte, là. Il y avait une porte et ils se mettaient sur le palier de la porte. Donc bien sûr, ils nous regardaient. Ils regardaient okay. tout ce qu'on faisait, ils nous disaient, vous le touchez pas. Vous prenez pas de photos, vous...
Bien
de toute
sûr,
façon, vous, évidemment, vous levez pas son drap, rien. Pas interdiction de le toucher, sinon menace de sauter mon droit de visite. Donc on me dit que mon mari va mourir, et puis on me dit, vous le touchez pas.
C'est immonde d'avoir autant pas de cœur, en fait.
C'est ça. Mais je
et d'être
dire,
aussi froid, d'avoir de autant de froideur en soi.
Et ça a été ça toute la semaine, tous les jours. On a un droit de visite 1 heure le matin, 1 heure le soir. Que moi et ma belle-mère. On a mis 4 jours.
En fait, il n'y a pas d'autre famille quoi, dans leur délire.
Alors bah, les tantes de mon mari qui étaient obligées d'attendre en bas de l'hôpital parce qu'elles n'avaient pas le droit de monter, elles ne pouvaient pas le voir. On a mis 4 jours à avoir l'autorisation que ma belle-sœur, donc la sœur de mon mari, puisse venir le voir. Donc après, on a pu être 3, finalement. Et ça a été
parce
comme
que
ça
vous
jusqu'au...
Êtes, parce que vous vous êtes battue
parce
pour ça,
parce qu'on s'est
en fait.
Battue, parce qu'elle l'a appelé, elle a harcelé le procureur, elle a appelé le tribunal pour avoir son permis de visite... C'était toute une histoire. Et jusqu'au jour même de sa mort, hein, on nous a interdit. Je suis arrivée le matin, mardi 2 février. J'ai vu que son état s'était aggravé. La médecin nous a dit voilà, que sûrement elle allait partir aujourd'hui. Donc on nous a autorisé évidemment à rester toute la journée. Et encore, non, il a fallu sortir de sa chambre, aller dans la salle d'attente, avoir l'autorisation du procureur de rester toute la journée pour lui dire que là, ça y est, il allait mourir, il allait partir. Toute la famille se réunit, ses amis dans l'hôpital. Ils appellent la sécurité, ils appellent la police. Je les ai vus hein, débarquer à 14. Ils étaient 14 dans le couloir de la réanimation parce qu'ils avaient peur que notre famille, elle monte.
Ouais, franchement.
Parce qu'on est une grande famille. La famille de mon mari, elle est très grande. Et donc, il y avait toutes ses grands-parents, toutes ses tantes,
ouais,
ses cousins, ce qui
est totalement
ses cousines,
normal.
Ses amis. Et bah, personne ne l'avait vu. Et tout le monde voulait le voir. Parce qu'il allait partir.
Et ce qui se passe quand il y a des fins dans ta famille, on a le droit de... Je sais, j'en ai...
Mais sous prétexte qu'il est prisonnier, non. On nous a dit même là, donc, OK, il va mourir. Et ben, ce sera que la femme, ce sera que la mère, la sœur et éventuellement la grand-mère. C'est la famille la plus proche. Les tantes, soi-disant, c'est pas assez proche.
C'est grave. C'est très grave.
Ouais. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et... Le premier jour où je suis arrivée à l'hôpital, donc le lendemain où on nous a prévenu de son accident, quand je suis rentrée chez moi, parce que j'avais qu'une heure le matin et qu'une heure l'après-midi, j'appelle le directeur de la prison. J'appelle le directeur de la prison pour lui demander ce qui s'est passé. Et là, il me déballe son histoire, voilà, son histoire mensongère. Il me dit, bah, écoutez, on l'a emmené... Donc, il faut savoir qu'il a fait un blocage, il a refusé... il a bloqué la promenade, en fait.
Ouais.
Il a bloqué la promenade, il a refusé de remonter dans sa cellule. Parce qu'il voulait changer de cellule, on lui a refusé.
Ce qui est courant en détention. Mmh. C'est pas quelque chose qui est rare. Des blocages de promenade ou des blocages de cellules, c'est pratiquement tous les jours, en vrai. Mmh. Voilà. Et faut savoir aussi que quand on bloque, surtout en promenade, c'est que quand les iris ou les élaques arrivent dans la cour, leur priorité, c'est d'achever le prisonnier et de le rentrer. Vous comprenez ?
Ouais, je comprends.
Voilà. Ça veut dire que on le tape et après on le ramène, à l'intérieur de la...
Mais le pire, c'est qu'il a décidé de rentrer lui-même. Donc, il a bloqué la promenade. Ouais. Donc, voilà, il a décidé de bloquer la promenade. Voilà, en fait. Il est resté une demi-heure, je crois, dehors. Et il s'est rendu de lui-même. Il a dit, OK, c'est bon, je rentre. Donc, il est rentré. Et je le vois, on le voit sur les caméras. On le voit, il rentre, il se rend, si je peux dire ça comme ça, de lui-même. Il a sonné, exactement, ouais. Il a sonné et s'est dit, c'est bon, je remonte. Et s'ensuit, bah voilà, là, le mystère... Il l'emmène en salle de fouille. Il l'emmène, donc ça mérite une punition. Il l'emmène au mitard. Il l'emmène d'abord en salle de fouille. Et celle-là, c'est le flou total. Donc là, le directeur de la prison me dit qu'ils l'ont emmené au mitard, qu'il était très violent, qu'il était très agité, qu'il ne faisait que crier lors de la fouille. Ils le mettent dans sa cellule. Il hurle. Il referme la porte de la cellule du mitard. Et là, d'un coup, ils n'entendent plus aucun bruit. Donc ils trouvent ça suspect. Ils trouvent ça suspect et ils re-rentrent dans la cellule. Et soi-disant, il est au sol en arrêt cardiaque. Ouais. Donc ça, c'est sa version. Et il me jure. Il me dit, je vous assure, madame, je vous promets hein, qu'il n'y a aucune violence qui a été faite envers votre époux. Et il me dit ça. Et nous, bah, par la suite, après on commence à recevoir, une fois qu'il est décédé ou même qu'il s'est retrouvé à l'hôpital, on commence à recevoir des témoignages de prisonniers et de, Dieu merci, de surveillants qui ont fini par parler en nous disant qu'il avait été, bah, qu'en fait il avait été tabassé. Qu'il avait été tabassé.
Et heureusement que ces surveillants ont parlé, parce que sinon on n'aurait jamais cru la version des prisonniers, malheureusement.
On n'aurait jamais cru, parce que nous, ils nous l'ont dit. On reçoit des choses, on l'entend hurler. On entend des vidéos de mon mari, il hurle. Du mitard, hein, on l'entend. Dans les cellules, partout dans la prison, on l'entend hurler.
C'est ce qu'on dit souvent.
Ils sont six. Ils sont six avec lui, il est menotté dans le dos. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ?
C'est
apparemment, et ce jour, on reçoit donc un courrier. On nous envoie un courrier et un surveillant qui nous décrit, qui nous dit qu'il n'arrive plus à dormir depuis ce jour-là. Qu'il a vu, que c'est tellement horrible ce qu'il a vu qu'il est obligé de nous en parler et qu'il veut rester anonyme parce qu'il subit des pressions.
Au vu du tract de la CGT, ouais. Enfin du syndicat pénitentiaire qu'a écrit, effectivement, il a quoi d'avoir peur. Hein,
tu m'étonnes.
Au vu de l'intimidation camouflée par leur, dans leur texte et dans leurs mots, exactement.
C'est ça.
Tu veux dire quelque chose ?
J'allais juste dire ce tract-là dont tu parles, c'est juste après que vous ayez sorti le témoignage du maton anonyme. C'est la CGT pénitentiaire qui fait un truc qui s'appelle le credo du lâche.
Exactement.
Et en fait, ça montre bien juste l'impunité des matons, quoi. C'est-à-dire, non seulement il y a un mort, mais en plus, ils se permettent de mettre un coup de pression public aux gars, quoi. Enfin,
c'est honteux. Ils n'ont aucun respect. Et donc, on reçoit cette lettre, on nous dit que le premier surveillant, en tout cas un des chefs
un gradé,
de la maison d'arrêt, un haut gradé, aurait tabassé à coups de pied mon mari jusqu'à ce qu'il en perde connaissance. On nous dit qu'il a eu effectivement tout ce qui est plaquage ventral, clé d'étranglement. Et de toute façon, pour moi, il avait déjà perdu connaissance jusqu'au moment où il a fait... évidemment un arrêt cardiaque, parce que je pense que quand on t'étrangle et qu'on s'assoit sur toi...
Il faut rappeler que toutes ces prises sont malheureusement légales en France et qu'on essaye depuis des années, avec les familles de victimes de la police, de faire interdire ces prises qui sont interdites dans d'autres pays européens, d'ailleurs. Mmh. Exact. Et aussi rappeler que ces surveillants pénitentiaires qui ont des rangers aux pieds, des chaussures de sécurité, alors que même sur les chantiers, ils ont du mal à en avoir, qu'ils n'ont pas à avoir ça, sont des chaussures très coquées, très dures. Et s'ils ont ça, ce n'est pas pour rien. Voilà. Comme leurs gants de motard.
Les keufs et les matons, en fait, ils savent très bien que cette prise, elle est mortelle. Enfin,
bien sûr qu'ils le savent.
Enfin, ça fait des années que c'est
public.
Il y a
des décennies qu'on le dit, que ces deux prises sont mortelles.
Exactement. Donc, et la chef de... Enfin, dans le courrier, et après, on nous explique que la chef de détention a été obligée d'intervenir pour retenir ce monsieur, qui d'ailleurs, je tiens à le dire, aujourd'hui a été promu capitaine, parce qu'on tue les gens et ensuite on est promu capitaine.
L'administration pénitentiaire, j'en ai déjà parlé, c'est à Saint-Martin-de-Ré, il me semble, étaient directement impliqués, pareil, qu'on tuait en fait des prisonniers.
Ou le surveillant témoignait, c'est une lettre d'un surveillant pénitentiaire qui est un témoignage d'un surveillant qu'on a interrogé il y a quelques mois de ça. D'accord. D'ailleurs, ce serait bien qu'on vous passe ce témoignage. et qui expliquait.
Oui, bah, il racontait que il balançait ses collègues qui avaient battu à mort un prisonnier. Il me semble que c'était l'histoire de Sambali, et qu'une des personnes qui était un de ses surveillants depuis avait été promu. Et comme on le sait, c'est toujours
il est chef de détention.
Voilà, il est chef de détention maintenant. C'est-à-dire à quel point en fait il valide, non seulement il valide, mais enfin.
C'est-à-dire que plus t'es pourri dans ce milieu-là, plus t'es promu en vrai.
Plus t'augmentes, c'est ça.
C'est incroyable.
Et elle a dû le retenir, cette chef de détention a dû le retenir. On nous dit dans le témoignage qu'elle a dû le retenir, lui dire ça y est, stop. Parce qu'il le tapait trop. Elle a dû intervenir pour lui dire d'arrêter de taper.
C'est cette même personne que t'as eu au téléphone et qui t'a dit je vous rassure que...
Et après voilà, et j'ai eu le directeur de la prison qui ment et qui couvre des meurtres. Hein. Donc
il ment sans problème, lui,
hein. Il en est même complice. Puisqu'à partir du moment où tu caches un meurtre, je pense que t'en es complice. Il n'y a pas d'autre mot. Il m'appelle et il me jure. Il me jure, madame, on a frappé votre époux. Et il me jure hein, que les ELAC ne sont pas intervenus. Alors que, on le sait, les ELAC sont intervenus.
C'est obligé.
Tu prends les avions en photo, on les... Voilà. Donc, dis-moi là.
Non, c'était juste pour dire que les ELAC, c'est des unités de sécurité, c'est des matons cagoulés qui sont dans chaque prison et qui sont là pour intervenir dès qu'il y a un mouvement. Enfin, là, un blocage, en fait, c'est juste quelqu'un qui refuse de remonter de promenade.
Ils arrivent à 10 avec des boucliers qui sont plus grands que moi et ils tapent sans. Et alors il y a une différence entre les IRIS et les ELAC. Les IRIS ne interviennent dans des détentions mais se déplacent de leur unité. Que eux, ils sont en permanence dans l'administration pénitentiaire et ils sont choisis par rapport à leur corpulence. Plus ils sont balèzes, plus ils sont pourris et mieux c'est. Voilà. Et ça, c'est des témoignages de prisonniers qui le disent régulièrement.
De toute façon, ce monsieur, donc, qui est aujourd'hui capitaine, j'ai reçu plein de témoignages comme quoi c'était un grand méchant monsieur qui apparemment n'aimait pas les gens de couleur. Et qui était réputé pour...
Tu mets du fait chez eux aussi, ouais.
Qui était réputé pour user souvent de la violence. Donc, on a fait les frais.
Oui, du coup, suite à tout ça, vous avez réagi. Enfin, il y a eu...
Ouais, exactement. Donc ensuite, déjà, on prend rapidement un avocat. Donc mon mari était toujours dans le coma. On prend un avocat. On commence à faire un appel à témoins. Ma belle-sœur lance un appel à témoins. Il y a beaucoup d'associations qui nous contactent contre violence policière, carcérale, qui nous aident. On décide d'organiser une marche blanche juste après son décès. Et on se réunit ce jour-là, on était des centaines.
Facile 2000, facile, minimum. Hein.
C'est vrai?
Vraiment, vous étiez beaucoup.
Je ne me suis même pas rendu compte.
Non, vous étiez beaucoup. C'est moi qui me bats contre la pénitence. Je suis à l'envolée depuis 2013. J'avais jamais vu ça.
C'est vrai?
Sincèrement.
Non, franchement, d'ailleurs, on remercie tous les gens qui ont été présents et qui sont venus et qui ont relayé l'info et qui se sont déplacés de loin. Gens qu'on connaissait évidemment même pas. Et on s'est retrouvés devant la prison à manifester et à réclamer la vérité. Et d'ailleurs, s'ils nous écoutent, je remercie les surveillants qui nous ont envoyé tous ces témoignages et qui osent dire aujourd'hui la vérité parce que franchement, sans eux...
Qui ont enfin brisé l'omerta.
Exactement. Oui, tout à fait. Et franchement, je les incite d'ailleurs à ne pas avoir peur. À ne pas avoir peur, à continuer à témoigner, à nous dire ce qui se passe. Il y a encore des gens, aujourd'hui, des détenus en prison qui ne nous auraient pas contactés, même des surveillants, d'autres personnes qui veulent le faire anonymement, de parler, parce que c'est important, parce qu'on en a besoin. On a besoin d'avoir justice pour Gémonie, de nous contacter, d'ailleurs, sur notre page Instagram et sur notre page Facebook, qui tient le nom de Justice pour Gémonie.
Il est important de le faire, parce que... il faut arrêter de croire que ça n'arrive qu'aux autres. Ça peut arriver malheureusement à n'importe lequel d'entre nous. La prison aujourd'hui, elle n'est pas que vouée à la délinquance. Ça aussi arrive à n'importe lequel d'entre nous. Et demain, ça peut être un frère, un ami, un voisin à qui ça arrive. Et plus jamais ça. Voilà. Donc, surtout, cet appel à témoins, n'hésitez pas à contacter la page. Tu peux redire les réseaux et...
Bien sûr, c'est Justice pour Gémonie. Donc, il y a juste à inscrire ça sur Instagram et sur Facebook.
Voilà.
Les deux pages portent le même nom.
Ouais, et juste pour dire que du coup, il y a les prises de parole qui avaient été enregistrées, qu'on a rediffusées dans l'émission, la dernière émission d'avril, pour celles et ceux qui ont Internet ou qui sont dehors, quoi.
Exactement. Ouais. Et du coup, je tiens à dire, au début, ils avaient ouvert une enquête sur donc, les recherches des causes de la mort, qui a finalement été, du coup, grâce à tous les témoignages,
requalifié.
Toutes les preuves voilà, qu'on a obtenues, hein, requalifié en violence volontaire ayant entraîné la mort. Donc ça a été un premier soulagement pour nous, sachant que en plus de ça, on a gardé le corps de mon mari a été autopsié et ils l'ont gardé 2 mois. Donc on nous l'a rendu 2 mois plus tard et on l'a enterré deux mois après son décès, sans bien évidemment avoir la possibilité de le revoir. Donc toute la famille qui n'a pas pu être présente à l'hôpital, personne n'a pu le revoir.
C'est
Donc
c'est un préjudice deuxième, moral énorme.
Deuxième coup de massue. Ouais.
Ouais. Puis après, pour dire que par contre, si vous avez obtenu cette qualification, c'est vraiment parce qu'il y a une lutte en fait derrière.
Exactement.
Et sinon, ça aurait été balayé comme ils balayent à chaque fois. Quoi.
Exactement. Ça aurait été crise cardiaque et on n'en parle plus. C'est tout.
Et c'est pour ça que c'est important quand il y a des prisonniers qui parlent, quand il y a ce genre d'infos, de les relayer, de contacter les proches.
Hyper important.
Et de faire attention aussi aux prisonniers là-bas, en fait, de continuer à faire sortir les infos, parce qu'on imagine que Amo, en fait, il reste les mêmes matons.
Mm-hmm.
Et donc, tous les prisonniers qui ont essayé de faire sortir l'info, eux, ils sont quand même soumis à la pression de ces gens-là, quoi.
Vous voyez, bizarrement, ils ont été placés, juste après ça, ils ont été placés en arrêt maladie.
Ah, les matons
Il y a eu quelques arrêts maladie, quelques congés. Et avant de revenir, je sais qu'ils subissent là-bas une pression monstre, que ce soit les surveillants qui veulent parler, parce que bien évidemment, ils leur ont demandé de dire certaines choses, d'avoir une certaine version, et ou que ce soit les prisonniers qui sont envoyés au mitard, encore, pour être punis, pour qu'ils se taisent.
Comme quand Jawad est mort à Saïs, assassiné par les surveillants roués de coups, ça a été du même acabit, ils ont pris... il y a eu une manifestation des surveillants, de prisonniers à l'intérieur qui faisaient un blocage. Ils étaient 200 à dire ce qui se passait. Et ils ont pris pour eux ce qu'ils ont appelé les têtes fortes de ce blocage. Ils les ont mis au mitard et ils les ont gentiment tabassés.
Ce qui est particulièrement vénère quand il y a quelqu'un qui vient de mourir au mitard quand même. Enfin, c'est un sacré coup de pression que de renvoyer quelqu'un là-bas. Quoi. C'est une torture mentale. En plus des coups, quoi. Enfin.
Et à l'époque, on avait dénoncé ça. On avait dénoncé on avait réussi à sortir un communiqué d'un prisonnier, des prisonniers à l'intérieur. Et la seule réponse que les prisonniers et que l'envolé a reçue, c'est la ministre Belloubet, qui nous a gentiment menacé en disant qu'elle condamnait ces allégations et qu'elle se gardait le droit de porter plainte contre les relayeurs.
Donc,
c'est l'intimidation pure et simple. Donc on lui a répondu, on lui a demandé de porter plainte et que le fait de porter plainte, ça allait faire en sorte qu'on cuisine ces surveillants véreux à la barre et qu'on l'encourageait à porter plainte et qu'on lui demandait même de le faire. Le souci, c'est qu'elle n'a jamais osé. Voilà. Parce que... Quand on se bat et que effectivement on lâche pas le et qu'on sait que nous la vérité on la connaît et ils nous feront pas enlever ce
dans le courrier. C'est vrai qu'on a reçu la personne qui témoigne anonymement nous dit bien que mon mari en fait il a servi d'exemple
pour
les autres. Tu refuses, tu bloques la promenade, tu refuses de monter en cellule, aujourd'hui t'as servi d'exemple pour les autres. Et
alors que c'est un droit d'être avec la personne que tu souhaites en cellule.
Bien sûr.
Parce que c'est ce que je t'expliquais la dernière fois au téléphone.
Bien sûr.
La prison en elle-même, elle est pas. Ce qui est vraiment dur en prison, c'est d'être avec quelqu'un en cellule avec qui tu ne supportes pas. Tu comprends? C'est comme ça. On t'enferme dans 9 mètres carrés avec une personne avec qui tu n'as pas envie d'être. Tous les jours, donc forcément tu fais en sorte tu t'écris au directeur, tu dis je voudrais changer de cellule. Et généralement ils ont pas que ça à foutre et ils te laissent avec et c'est comme ça qu'arrivent des drames dans certaines cellules des fois.
Et puis là, du coup, ils ont refusé et c'est comme ça que ça a commencé. Et je tiens à dire aussi, quand j'ai eu le directeur de la prison au téléphone, qui me racontait ses balivernes, il m'a aussi dit que ce jour-là, ce que je lui ai demandé, s'il y avait des caméras. Il me dit bien évidemment qu'il n'y a pas de caméra dans le... Non, la caméra piéton s'est cassée. Apparemment, mon mari l'aurait arraché. Menotté les mains dans le dos, plaqué au sol. Il a réussi à arracher la caméra piéton.
Par contre, tu vas toucher le cheveu d'un surveillant. Il y a toutes les caméras du monde qui fonctionnent.
Exactement. Hein. Exactement.
C'est quand incroyable. Même incroyable.
Je ne sais même pas comment ces gens-là... Je me demande si des fois, ils vous écoutent. Je ne sais pas s'ils écoutent votre radio.
Si, ils écoutent. Coucou.
Ouais. Mais ouais, voilà. Coucou. S'ils nous écoutent, je me demande comment ils arrivent à aujourd'hui se regarder dans le miroir, à rentrer chez eux auprès de leurs femmes, leurs enfants, en sachant qu'eux, ils ont ôté la vie de mon mari, ils ont pris la...
Nous, aujourd'hui, on a une plainte sur le dos, en fait, parce qu'on a fait un article, ce qu'on disait au début d'émission, un article, enfin, c'était un...
On a relayé, en fait, l'histoire de Taoufik à Perpignan, de Idira Korba,
et de Jawad Assaïs.
Et de Jawad Assaïs, ouais.
Donc, trois prisonniers qui sont morts...
Et de Sambali à Saint-Martin-de-Ré, en fait.
À cause de l'administration pénitentiaire. Mmh. Et on a expliqué que la peine de mort n'était toujours pas abolie, que c'était des crimes, c'est des crimes pénitentiaires. Je ne sais pas comment dire ça, mais voilà. Ouais, et le truc, c'est que... comment il s'appelle, celui qui porte plainte? Parce que je ne me rappelle jamais de son nom, à ce petit monsieur.
Merlet?
Oui, celui-ci-là, celui-là. Donc il a porté plainte contre le journal de L'Envolée en expliquant que... Bah quoi?
Bah j'ai dit qu'il a porté plainte. Le directeur de l'administration pénitentiaire.
Non, je te parle de la plainte qu'on a eue sur le dos.
Ouais, c'est le directeur de l'administration pénitentiaire. C'était Brodin.
Mais comment il s'appelle celui-là, là? Mais quoi qu'il arrive, sous des vilains, alors...
Ouais, mais là, j'ai pas le blase, désolé, tu me regardes. En mettant un coup de pression, je...
Bref, il nous a... Bref, on a eu une plainte en disant que le numéro est interdit de rentrer en détention, enfin, le journal... Voilà, donc effectivement, on va avoir une plainte. On a cette plainte, on attend notre procès avec hâte. Hein, et là, encore une fois, on pourra enfin faire sortir des vérités à la barre, puisqu'il y a des familles qui vont venir témoigner. Et c'est important, en fait. Tu veux parler?
Oui.
Tu t'approches depuis tout à l'heure. Donc,
C'est ça. Ouais, non, parce qu'un des trucs qu'on dit dans le dossier, par rapport à ce qu'on disait en début d'émission, c'est qu'il y a quand même un mort tous les trois jours en prison en moyenne. Vous disiez, vous, quand même, heureusement, il y a des matons qui ont parlé pour qu'en fait, on vous croie et que cette histoire, disait dans le dossier, les trois quarts des histoires, déjà, il n'y a pas de co-détenus pour parler, s'il n'y a personne au mitard, s'il n'y a personne à même pas de proche, il y a plein de gens qui sont isolés. Et après, clairement, les matons, les trois quarts du temps, ils ne parlent pas, on voit bien pourquoi il y a les coups de pression quand, pour les quelques-uns qui n'ont pas l'esprit corpo ou qui ça fait pas plaisir. Et du coup, c'est ce qu'on disait, la lettre d'Orfer tout à l'heure, elle parlait du fait que la prison, ça t'enferme à vie, mais c'est aussi un endroit où ta vie, elle vaut rien et t'es tuable en prison. Le truc, et surtout le truc que tu racontais au début, moi je trouve ça ouf cette histoire de la prison qui te suit à l'hôpital et jusqu'à ton jour de mort, où en fait c'est vraiment, on te considère comme quelqu'un, t'es vraiment pas humain à partir du moment où on dit non, mais en fait même le jour de ta mort, on va continuer à te considérer comme un prisonnier.
Dit, il est dans le coma, déjà, où tu penses qu'il va aller, qu'est-ce que tu penses qu'on va faire? Nous on est de sa famille, donc déjà nous on va pas lui faire du mal, donc nous dis pas que c'est pour protéger le prisonnier, on est sa famille.
C'est clair.
Lui, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il est en mort cérébrale, donc tu penses qu'il va se lever, et qu'est-ce qui va se passer?
Parce qu'ils ont peur de la découverte de quelque chose.
Parce qu'il y a ça à côté.
Exactement. Nous on a des infirmières même qui sont venues nous voir dans les couloirs en nous disant, creuser, c'est bizarre. Moi je demande au docteur, je disais, qu'est-ce qui s'est passé? Comment il est arrivé? Même la médecin, je pense qu'elle osait pas me parler. Ouais, je la voyais, elle me disait, je sais pas.
Des directives.
C'est ça. Et je pense qu'elles-mêmes, ils ont dû voir la menace et tout. Quand t'arrives et t'es capable de me dire, le touche pas, ne prenez pas. Dès que je prenais mon téléphone, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez pas en photo, vous faites rien, etc.
Ouais, et ça, c'est clairement leur technique pour déguiser. Enfin, ils savent très bien qu'il y a tout le truc à faire derrière pour éviter qu'il y ait des preuves ou quoi que ce soit. Enfin, ce que tu disais sur deux mois, l'attente pour récupérer le corps. Enfin, il y a l'histoire de Taoufik dont on a beaucoup parlé, qui est aussi une histoire de dingue comme ça. Oui, ils savent comment, quand même, éviter qu'il y ait des preuves. Comme à chaque fois qu'il y a un meurtre policier dehors, c'est les mêmes techniques. Enfin, on en parle souvent ici.
C'est clair.
Ouais, Taoufik, juste pour dire, c'est quelqu'un qui est mort dans l'atoll de Perpignan. Et pareil,
soi-disant,
des proches,
il aurait avalé.
Un morceau de viande, il serait mort étouffé.
Il serait étouffé avec un morceau de viande.
La famille a été prévenue plusieurs semaines après, au moment de le débrancher, au moment où il le tuait. Et ils ont mis plusieurs mois, à avoir une autopsie, avoir l'autorisation de l'autopsie qui n'a pas encore lieu. Et donc, en fait, depuis octobre, il est mort. Et il est dans une morgue. Et les gens, ils peuvent pas faire leur deuil, quoi. Enfin...
Non, c'est ça. On peut pas faire notre deuil. Il est pas enterré. Déjà, on n'a pas la justice, donc c'est difficile de le faire. Et en plus, on peut pas enterrer notre défunt.
Et en fait, c'est aussi une manière de gagner du temps pour éviter des... Enfin, parce qu'il y a des preuves qui se perdent avec le temps. Et, enfin, voilà, ça, et ça, ils le savent très bien, en face. Parce qu'ils ont des années d'expérience de gens qui sont morts à l'intérieur, quoi. Et je me demandais, ça a donné quoi, du coup, les autopsies? Vous avez eu les résultats?
Ouais, on a eu...
Si tu veux en parler, t'en parles. Ah, si tu veux pas en parler...
Ouais, voilà, je pense que je vais pas pouvoir en parler plus carrément. Que ça. Mais on a un résultat et en tout cas, on a tout ce qu'il faut. Auprès de notre avocate. Donc,
En tout cas, c'est pas ce qui a été dit dans la presse.
Absolument
quoi
pas.
Quoi qu'il arrive.
Ça, déjà, le jour où on arrive à l'hôpital, on le voit, des bleus sur le corps, les traces des menottes, mais les poignets, mais ensanglantés. Et vraiment des entailles tellement profondes, une bosse sur la tête, mais un hématome, elle arrivait là. Mais ici, elle arrivait.
C'est plus dur, c'est mou.
Ouais. Et des bleus, des traces sur le cou. Voilà.
Ouais, il n'y a pas besoin d'être médecin légiste,
en
fait.
Ouais, on est d'accord. Ouais, c'est ça.
Et oui. Du coup, là, vous, donc il y a eu la marche.
Oui.
Depuis, il y a quand même eu pas mal de communication sur les réseaux. Enfin, c'est l'histoire, on en parle quand même encore ces derniers temps.
Exactement.
Est-ce qu'il y a des choses que vous avez prévues dans...
Alors là, justement, il y a le... comme vous devez être au courant, il y a la mobilisation le 30 mai.
Ouais.
Du coup, voilà, suite pour dénoncer les violences carcérales. Donc nous, on a prévu de se réunir sur Paris, justement. Donc on a promis, du coup, à la maman de... Donc Najet, qui est la maman de Hidjir. Nous de se réunir sur Paris. Alors je ne sais pas encore exactement le lieu et l'heure.
Vous nous tiendrez au courant, comme ça on pourra l'annoncer à l'antenne.
On
communiquera
sur nos réseaux sociaux, donc sur notre page internet, et on vous le dira directement, bien évidemment. Donc je pense qu'on va se donner rendez-vous sur Paris. Et, c'est tout.
Ouais, pour dire, du coup, là, le 30 mai, il y a un appel pour celles et ceux qui voudraient s'en saisir, même dans d'autres villes, donc contre les violences pénitentiaires. Pour demander la fermeture des mitards et des quartiers d'isolement, donc c'est les endroits où il y a beaucoup de morts violentes à l'intérieur, quoi, et beaucoup de tortures blanches aussi. Mm-hmm. Et donc il y a un appel à Lyon à être à 14h place Bellecour avec la famille de Didier et le collectif Espoir et Solidarité. Il y aura quelque chose à Perpignan, à Béziers et à Saint-Etienne aussi, si je ne dis pas de bêtises, en plus de Paris.
Oui.
On essaiera de relayer les rendez-vous. Il ne faut pas hésiter un peu partout, même à faire des bandes, enfin pour celles et ceux qui sont dehors, à s'en saisir, quoi. Enfin, que ce soit un rassemblement, une banderole, quoi que ce soit.
Exactement. Et à venir surtout, c'est important. C'est très très important. On ne se rend pas compte jusqu'au jour où on tombe dedans et ça peut arriver à n'importe qui.
Et surtout, que tu es en prison, il y a plusieurs façons, dont, et je le dis régulièrement parce que ça me brise le cœur de voir cette omerta à l'intérieur. Ça veut dire qu'on peut mourir sous les coups des surveillants, on peut mourir par des suicides camouflés, c'est-à-dire que, en fait, on pousse la personne à bout à l'intérieur, à la destruction psychologique, jusqu'à se donner la mort soi-même parce qu'on n'en peut plus, tout simplement. Et c'est plein de petits détails. On joue sur les parloirs, on interdit les parloirs, on vous donne pas vos cantines. C'est plein de petits trucs qui s'accumulent, des fouilles régulières, des contrôles œilletons toutes les 30 minutes ou 40 minutes, on vous empêche de dormir. Voilà, il y a tout cet harcèlement à l'intérieur et il faut le dire, il faut en parler. Et oui, la prison tue. Oui, les matons
tuent.
Et force et courage à vous et tout notre soutien en tout cas.
Merci infiniment. Merci.
Il y a des choses que vous voulez rajouter des...
Juste voir là-dessus, si vous pouvez être le maximum de personnes à suivre donc notre page Instagram et notre page Facebook. Justice pour Jimouni, parce que c'est important. Plus on a de monde, plus on repartage, plus on a de visibilité, plus les gens connaissent l'histoire.
Et c'est très important.
Et aussi, pas hésiter à nous envoyer des témoignages s'il y a encore vraiment des surveillants, des prisonniers qui nous écoutent et qui n'auraient pas parlé jusque-là, de nous contacter et d'avoir confiance et de ne pas avoir peur, même si je sais qu'ils subissent une pression monstre. Parce que pour nous et pour avoir justice, ne serait-ce que pour Jimouni, c'est trop important. Parce que tant que... Et puis nous, la famille, ceux qui restent, sans justice, c'est pas possible, on ne peut pas avoir la paix.
Exactement. Pas du tout, exactement. C'est totalement ça.
Donc voilà, et pas hésiter à venir à la manifestation du 30 mai.
Ah oui, carrément. Du coup, nous, on va continuer à relayer. Nous, on sera à Lyon.
On mettra les pages et les liens pour pouvoir contacter la famille sur le déroulé et la rediffusion de l'émission. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça.
Podcast. Sur le site de l'Envolée.
Je sais pas comment on dit. Podcast.
Oui, podcast.
Et du coup, là, on va passer un tout petit peu de musique avant d'enchaîner avec les brèves, l'agenda et finir l'émission tranquillement.
Ça marche.
Le créateur de l'univers, je lui ai toujours conservé mon amour. Mais si, après la mort, elle ne pouvait plus exister, pourquoi vois-je la plupart des nuits chaque tombe s'ouvrir et leurs habitants soulever doucement les couvercles de plomb pour aller respirer l'air frais?
Tout bonnement, parce que la mort n'existe pas. Autrement, on ne serait pas là à répandre nos cendres, à répandre nos cadavres, choper des crèves de malades. Enfin bref, trêve de palabres. J'écoute les chants de Maldoror, c'est comme un film d'horreur. À l'intérieur, le diable au corps, dehors y'a Big Brother. J'ai bu un peu trop d'alcool fort, je sors le Six Hour. Je préfère voir des fachos morts plutôt que des Twin Towers. Tu pourras sucer ton hostie, t'auras l'éternité. Tu ne tueras point, tu les as déjà tous exterminés. T'auras des peines, t'auras l'enfer ou bien t'auras l'Éden. Colère et haine sont dans nos gènes, c'est dans notre ADN. Ce soir, je vais me chauffer la tête avec une liqueur chimique. J'applique le mal au pied de la lettre avec une rigueur biblique. Si les brebis sont égarées, les bergers les découpent. Si mes sevilles sont très carré, les RG les écoute. Je laisse ma plume à Lucifer, c'est pour mes zombies pâles. On est au centre de l'univers, on est son nombril sale. Je prends du shit et de la verdure et puis je compile ça. Parce que le vice et la vertu souvent se combinent mal.
Et le rossignol ne veut pas faire entendre ses cavatines de cristal. Le bois est devenu auguste comme une tombe.
Je laisse mes démons dormir dans moi. Chaque fois que je me réveille, j'entends des mots qui m'ont dit vas-y essaye. J'ai oublié de sourire, je fais tout pour tout laisser pourrir. J'ai jamais dessiné mes rêves, j'ai trop peur de me découvrir. Je suis l'enfant affreux, pas un enfant affreux. Né dans l'innocence, je suis devenu mauvais. La haine de l'autre me donne la haine et une aisance, laissant l'essence au frais. Après l'argent et les armes, c'est la mort qu'on met dans le coffret. Une ombre me suit partout, mais c'est pas la mienne, casse la mienne. Je cours après le soleil pour brûler mes ailes par moi-même. Tout passe de magnifique à réellement dégueulasse. Naturellement, tout reprend ses droits de la loi, c'est de l'astre. Un animal sain est affamé. Prendre une vie pour remplir la mienne, c'est dans mes gènes assoiffés. Les excuses sont bonnes à prendre pour trouver la violence. Cherchant à savoir qui on est, à chaque fois on recommence.
Et je tremblais comme tremble la lave intérieure d'un volcan. À la fin, ma poitrine oppressée ne pouvant chasser avec assez de vitesse l'air qui donne la vie, les lèvres de ma bouche s'entrouvrir et je poussais un cri.
Aujourd'hui j'ai défait mon pieu, j'ai fêté mon mieux. De ceux qui après le coup de grâce n'ont pas rencontré Dieu, qui les regarde en face, les cieux dans les cieux. Ah je connais pas les lieux, je me tape tous les feux. Me purifie comme je peux, me souviens de la première fois que j'aurais pu me dépuceler, elles étaient deux. Première fois que je suis dead, j'étais heureux d'avoir trouvé ma voie. Mais j'hurle quand on me dit jure-le, d'entre elles je m'entraide. Certains tuent des taureaux, certains tuent des moutons, certains tuent des gens. On ne fait peu de poids devant des traditions, rituels des on ne peut se défaire. Moi j'ai ma mission, je m'y consacrifie. Si c'est sans résultat, j'aurai au moins des séquelles. Avant j'écrivais pour laisser une trace. Maintenant j'écris pour que les marques s'effacent. Après nous, le dégel.
Un cri si déchirant que je l'entendis.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée, comme tous les vendredis de 19h à 20h30. Pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité, Paris 19e. Pour nous appeler, c'est Alex qui va vous le dire.
Ouais, c'est au 07 52 40 22 48. Et donc, il ne faut pas hésiter toute la semaine. Voilà,
à appeler 24h sur 24, 7 jours sur 7.
Toute l'année, ouais. Exactement. Non, et du coup, là, pour finir l'émission, on voulait déjà donner une bonne nouvelle. C'est que cette semaine, il y a deux prisonniers du centre de rétention de Nîmes, donc dans le sud, qui est un gros centre de rétention, qui ont réussi à se barrer et qui, pour le moment, ont pas été retrouvés. Enfin, voilà, non, juste pour donner un peu d'air à l'émission, quoi.
C'est pour donner un peu de force.
Voilà. Du coup, bon vent à eux. On espère qu'ils se feront pas péter.
Bonne route à eux, en tout cas.
Ouais. Bonne route. Et on rappelle que maintenant, les prisonniers en centre de rétention, en fait, ils sont condamnés à de la prison quand ils arrivent à s'évader aussi.
C'est la double peine.
Du centre de rétention, quoi. Oui. Du coup, voilà, on leur souhaite du courage. Et on voulait aussi vous lire un témoignage d'un prisonnier de Vincennes. Donc, c'est un centre de rétention. C'est une prison pour sans-papiers. C'est assez bref. Et ouais, peut-être on le lit et après on en parle.
Ouais, c'est un témoignage qui revient sur le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui font de la prison pour des tentatives d'évasion, mais beaucoup là en ce moment pour des refus de test, parce que donc pour se faire expulser, il y a les pays de retour qui demandent un test négatif, et du coup les prisonniers en centre de rétention, ils refusent le test pour éviter d'être expulsés.
Les tests Covid, non, les tests PCR.
Oui, les tests PCR, pardon. Et du coup, ça, c'est criminalisé et les prisonniers se retrouvent en comparution immédiate à la fin de leurs 90 jours de rétention pour refus de test. Et il y en a qui prennent 3 mois de prison, il y en a qui prennent du sursis et qui retournent pour 3 mois en centre de rétention. Et du coup, il y en a plein là qu'on fait 6 mois de rétention ou 6 mois de prison, 6 mois de rétention en cette année. Il y en a vraiment qui sont enfermés là dans des boucles comme ça dont on a pas mal parlé. Donc là, c'est un témoignage qui revient là-dessus. Depuis que je me suis fait serrer lors d'un contrôle d'identité à Paris, j'enchaîne les allers-retours entre le CRA et la prison. C'est la merde, c'est sans fin. Après 2 mois au CRA, ils ont commencé à vouloir me renvoyer dans un pays qui n'est pas le mien. Comme mon pays ne donne pas le laissez-passer, ils veulent m'expulser ailleurs. Mais j'ai quand même des droits, non ? J'ai alors refusé les tests PCR. Ils m'ont emmené en garde à vue et le juge m'a collé 2 mois ferme. Lorsque je sors de la santé, je retourne au CRA et là, au bout de 2 semaines, ils me programment un nouveau vol. Encore les tests, encore les refus, encore la garde à vue. Et là, je prends 3 mois de tôle. Là, je suis de retour au CRA. Je suis crevé, désespéré. C'est crade, il y a des malades, il y a le Covid, je suis dégoûté. J'ai une OQTF, donc une obligation de quitter le territoire français, et une ITF, une interdiction de retour sur le territoire français, sur le dos. Je m'en sors comment ? Crade, tôle, ça s'arrête quand ce délire ? Ça fait plus de 20 ans que je suis en France. Et il y a un autre témoignage là, d'un prisonnier au centre de rétention du Ménil-Amelon, pareil, à côté de l'aéroport Charles de Gaulle, qui fait un peu écho à celui-là, qui dit « Salut, j'espère que ça va de votre côté. Moi, ça peut aller, je suis un peu blasé. Je suis devenu une propriété d'État à 27 ans. Depuis 3 ans, j'ai l'impression que je ne vais jamais retrouver ma vie. Tu vois, je voulais te parler du centre, tu sais, pour les gens comme moi qui viennent de loin. Sans visite, on ne peut pas recevoir d'argent. Même en prison, on peut recevoir des virements pour ensuite s'acheter de quoi manger. » Ici, il n'y a aucun système qui a été mis en place pour recevoir de l'argent. Et franchement, à la longue, c'est un peu compliqué, tu vois. C'est pas normal, ça. C'est pas bien. En gros, si t'habites pas loin, c'est bien, parce que ça peut te ramener des sous. Mais quand tu viens de loin, c'est un gros démerde-toi. C'est pas bien. Moi, je suis fatigué de tout ça. Ça fait 3 ans que l'État me traîne de gauche à droite. J'ai déjà payé pour mes erreurs de jeunesse. 3 ans plein, c'est pas rien, tu vois. Ils sont tordus, c'est pas bien du tout.
Ouais, parce que du coup, pour dire en 2 mots, les personnes qui sont, qui sont étrangères, qui n'ont pas les papiers, c'est plus compliqué d'avoir des remises de peine quand tu es en prison. Il y a de grandes chances que ton titre de séjour ne soit pas renouvelé et que quand tu es en prison. Et qu'après que donc à ta sortie de prison, que ton titre de séjour ne soit pas renouvelé, que tu prennes une OQTF et que tu sois ramené en centre de rétention. Voilà. C'est, du coup, les CRA, c'est les prisons pour sans-papiers. Et donc, c'est des endroits où les gens ils peuvent être enfermés jusqu'à 3 mois parce qu'ils n'ont pas de papiers. Et de plus en plus de gens, ils sortent de prison et donc ils sont transférés de la prison directement au centre de rétention. Et là, ils remangent 3 mois. S'ils refusent le test PCR, ils peuvent retourner en prison, etc. Et faire des allers-retours quasiment à l'infini. En fait, jusqu'à faire craquer les gens, quoi. C'est toute la logique du truc, quoi. Et je voulais dire, là, à la fin, on a fini par un témoignage du Ménil-Amelot. C'est la plus grosse prison pour sans-papiers de France. Elle est juste à côté de l'aéroport Charles de Gaulle. Et ils ont prévu la construction d'une nouvelle prison pour sans-papiers là-bas, de 64 places. Elle sera prête d'ici quelques années. Et il y a un appel, y a des gens qui veulent commencer à s'organiser contre. Juste pour vous dire, il y a un mail de contact, c'est anticra@riseup.net. Donc c'est l'Assemblée contre les centres de rétention d'Île-de-France. Et on donnera des nouvelles bientôt. On essaiera de faire un peu une émission là-dessus. En gros, c'est l'ancien CRA, c'est l'ancienne prison historique qu'ils sont en train de reconstruire, quoi. Et donc ça, c'est au Ménil-Amelot. Et donc tous les gens qui ont envie de s'organiser, qui sont dehors, faut pas hésiter, quoi.
On va donner des nouvelles de la maison d'arrêt de femmes des Baumettes, où on a été contacté hier pour dire que tous les parloirs avaient été annulés au dernier moment et que toutes les femmes avaient été testées pour le Covid. Donc si votre parloir a été annulé, sachez que c'est pour cette raison-là qu'elles vont bien, qu'elles sont un petit peu en colère quand même. Et bien évidemment, vous pensez bien que les brouilleurs ont été montés à l'intérieur. C'est-à-dire que les brouilleurs, c'est ce qui empêche de téléphoner avec des téléphones illégaux en prison. Parce que le problème, c'est que quand on téléphone, des cabines, elles sont enregistrées et que quand on commence à parler et dire ce qui se passe dans la manipulation pénitentiaire, on vous coupe la ligne.
Ouais, et ça coûte une blinde aussi. Hein.
Et ça coûte une blinde.
Tu n'as pas accès tout le temps, c'était en maison d'arrêt. En fait, il y a tout un tas de trucs qui font que c'est pas possible de passer par là pour maintenir le lien avec les proches, quoi.
Exactement. Et donc ils peuvent monter la fréquence des brouilleurs ou la descendre selon leur humeur. Et apparemment, ils sont de mauvaise humeur. Voilà. Donc pour éviter que les familles préviennent leurs proches. Ils ont monté les brouilleurs, donc c'est pour ça que vous n'arrivez pas non plus à joindre ces personnes à l'intérieur. Donc ne vous inquiétez pas, elles sont en forme, elles vont bien et force à elles en tout cas.
Ouais, mais pour les personnes qui sont dehors, faut pas hésiter à appeler l'administration pénitentiaire là-bas, par contre, en fait, pour leur demander de baisser
des
les brouilleurs.
Des explications
des explications. Bah, évidemment, sur comment ça se passe pour les prisonnières, quoi. Parce que non, mais juste pour rappel, en fait, ça fait presque un an là que c'est hyper tendu à la MAF des Baumettes, qu'il y a régulièrement des fouilles
illégales de matons, des élacs sur les femmes, alors que c'est pas légal. C'est des attouchements.
Ouais, des fouilles de cellules où les cellules elles sont détruites retournées hyper régulièrement, des blocages en promenade qui ont été hyper vénères, des transferts disciplinaires. Et c'est des prisonnières aussi qui ont beaucoup résisté, en s'emparant notamment de la radio Parloir Libre, en appelant deux fois par semaine, pendant presque un mois, pendant tout le mois de décembre, pour faire du bruit et essayer de faire en sorte que ça s'arrête, quoi. Du coup, beaucoup de force à elles, et on continuera de donner des nouvelles s'il y en a, quoi. Pour finir l'émission, peut-être juste avant les coucous, pour les personnes qui sont dehors et qui sont vers Paris, il y a deux rendez-vous demain qui sont importants, au moins, enfin il y en a peut-être d'autres, mais il y a déjà une marche pour réclamer la vérité pour la mort de Sabri à Argenteuil. Donc c'est rendez-vous à 14h30 à la gare d'Argenteuil. C'est quelqu'un qui s'est fait tuer par une équipe de keufs, il me semble, pendant le premier confinement. Et c'est encore une fois, c'est parce qu'il y a des proches qui vont se battre que la vérité elle va arriver à un moment. Ils appellent à venir le plus nombreux et nombreuses possible demain 14h30 gare d'Argenteuil. Il y a un autre rendez-vous au même moment qui est tout aussi important, c'est la manifestation en solidarité avec le peuple palestinien qui cette semaine prend encore plus cher que d'habitude, quoi. On parle de plus d'une centaine de morts. Là, ils sont en train de bombarder de manière...
Et à qui on empêche les gens de manifester.
Ouais.
Aussi,
et du coup, il y a Darmanin qui s'est emparé du truc pour via Twitter, puisque maintenant, il parle par Twitter, quoi. Il a annoncé l'interdiction...
Moi, je sais pas le faire, mon pote. Il tweet l'autre.
Il annonce l'interdiction des manifestations, et notamment à Paris, à 15h, à Barbès demain. Mais du coup, c'est encore plus important c'est encore plus important d'y être, parce qu'ils l'interdisent, et parce que ce sera une des seules occasions, là, pour ce week-end, de ramener de la solidarité avec ces gens-là, quoi. D'autant que la position de l'État français est dégueulasse. Genre, on met sur le même pied, en fait, des gens qui sont genre pas un État, pas avec une armée, et une armée qui est en train de les bombarder, qui est dans un État colonial où il y a un système d'apartheid, quoi. Enfin, donc c'est genre totalement hallucinant comment c'est traité. Et dans plein de villes, il y a eu des rassemblements. Il y en a qui sont appelés aussi. Et du coup, voilà, demain, 15h, Barbès. C'était déjà le cas il y a 7 ans maintenant, non, en 2014. Il y avait eu des grosses manifs à Barbès, pareil, en solidarité avec le peuple palestinien. Et déjà pour les mêmes raisons, toujours parce que cette colonisation, elle continue et qu'il y aura besoin de solidarité internationale pour que ça s'arrête aussi, quoi. Voilà. Et on voulait rappeler le rendez-vous en attendant qu'on connaît, c'est le 30 mai, rassemblement pour la fermeture des mitards contre les violences pénitentiaires. Et c'est Place Bellecour à Lyon. Il y aura un rassemblement à Paris, du coup, un rassemblement à Perpignan, Béziers et Bordeaux. Et Saint-Etienne.
La semaine prochaine, on vous passera un petit enregistrement de la maman Didier qui fera un appel pour ce rassemblement. Et on va passer au coucou peut-être.
Ouais. Et juste parce qu'on a un tout petit peu de temps, avant de passer au coucou, je voulais juste dire qu'il y avait eu un truc aussi qui avait été dégueulasse cette semaine, mais on en parlait, c'est le moment de la présidentielle. Et c'est le Parti communiste qui lance sa présidentielle en demandant des peines de sûreté de 30 ans pour toutes les personnes qui
c'est les cocos qui font ça ?
Ouais, ces tentatives de meurtre ou meurtre sur tous les représentants de l'État, quoi. Cette semaine, il y a Dupond-Moretti qui l'annonce pour toutes les personnes qui auraient fait une tentative de meurtre ou un meurtre sur un keuf, quoi. Ouais, cette semaine-là. Et juste après, il y a le PC qui réagit en disant « Mais nous, en fait, on est le parti de la sécurité. On a encore plus faf à vous proposer. Ça va être étendu à tous les représentants de l'État. » Et du coup, eux, ils ont annoncé que leur manière de se démarquer et de faire de jouer la présidentielle...
Mais comment ça se passe quand c'est le sens inverse ? Parce qu'arrivé un moment, il faut en parler aussi, quoi, tu vois. Ça veut dire que c'est... La peine de sûreté, c'est quoi ? Ça veut dire qu'en fait, la peine maximale en France, c'est 30 ans. Mmh. Mais tu as des réductions de peine et ils demandent une peine de sûreté à 22 ans. C'est-à-dire que tu ne peux pas poser d'aménagement de peine avant 22 ans. Mais là, ça veut dire qu'ils veulent aller jusqu'à 30 ans.
Mais déjà qu'avant 22 ans, c'est très grave. 30 ans,
c'est une peine de mort, quoi, en fait.
C'est ça.
C'est exactement ce que racontait Dorfer dans la première lettre, quoi. Voilà, mais juste
bienvenue
pour dire
dans
que
les
là,
mouroirs
ça...
de la République.
Ouais. Et là, ça vient du Parti communiste. Et donc, ça annonce bien l'ambiance pour l'année prochaine si le Parti communiste commence là-dessus. Quoi, parce que du coup, jusqu'à l'extrême droite, on imagine bien comment ça va surenchérir. Quoi. Et pareil, on essaiera de donner un peu des nouvelles de tout ça dans les prochaines semaines. Ouais. On passe du coup au coucou.
Du coup, je passe un coucou et surtout une force à tous les prisonniers et prisonnières de France et ainsi qu'à leurs proches. Ouria, je pense à toi, ma sœur, Martial, Blédard, tu te reconnaîtras, tu sais. Et puis tout ce que j'oublie.
Ouais, une grosse pensée à Fabrice, à Karim, dont on a aussi vite fait parler en début d'émission. Un gros big up aux copains de Liancourt. Désolé, on n'a pas beaucoup donné de nouvelles, mais en tout cas, voilà, on pense à toi.
J'espère que tu as reçu la lettre.
Alors lui, il parle plus au micro, il en a plus rien à foutre.
Et gros coucou à Youssef aussi, j'espère que tu vas bientôt avoir ton transfert.
Ouais. Force du coup aux trois de Saint-Maur, du quai de Saint-Maur avec qui on est en contact.
Et un petit message à Dupond-Moretti, parce qu'il faut quand même lui donner ce petit message. Ça serait sympa de donner des conditions, comment ça se passe pour les parloirs. Parce que c'est bien beau de parler à la télé, mais on aimerait savoir comment ça se passe pour les familles, les parloirs, les pexiglas. Est-ce que les vies d'unité familiale sont remis ou pas ? Voilà, c'est une question intelligente à laquelle il faudrait répondre un jour, quand même.
Bah ouais, exactement. Et du coup, la semaine prochaine, on va reparler de ça aussi, de comment ils invisibilisent la question des parloirs, quoi. Je sais pas si vous avez envie de dire un dernier mot.
Non, juste, franchement, merci de nous avoir reçus, merci pour tout ce que vous faites.
Merci
et courage à tous ceux qui...
Donner de la force, parce que...
Ouais.
Parce que c'est super important et c'est super grave ce qui se passe. Je suis
d'accord. Ouais. Et juste courage à tous ceux qui vivent la même chose que nous aujourd'hui.
Rediffusion mardi matin, mercredi matin, 8h30. À la semaine prochaine. Force, courage et détermination. Et bien évidemment, il n'y a pas d'arrangement.
On ne discute pas les goûts et les couleurs. Elengia Trafic. Mode furtif désactivé, la voix dans ma tête me dit putain. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour le butin? Quand j'avais les gros, personne m'a donné du pain. Maintenant des couplets violents, j'en ai plus d'un. Mental de feu, j'ai la barre, donc je suis toujours au pêche. T'as 22 quand je les vois, 23 toujours au pied. Beaucoup se font la guerre pour des histoires de fesses. Et d'autres la font pour des histoires de cesse. On peut pas finir seul, alors on s'accoupe. Dans VK, tu te dis, on sombre à sa coupe. Au quartier, ça emballe, ça bibi, ça coupe. La violence gratuite, nous on sait ce que ça coûte. Obligé de leur montrer qu'on peut être impoli. Ici tout est noir, donc les lois s'abolissent. Regarde froid, c'est un police. Le genou sur la nuque de la juge et de la police.
Dans la ville, j'suis dans la BM, je ride. Les jaloux me veulent du mal. Dans la ville, j'suis dans la BM, je ride.
Les jaloux me veulent du mal.
Je passe ma vie au studio sans payer de loyer. Rivière de remords, mes rêves se sont noyés. Sur ce morceau car mon cœur elle a broyé. Dans la gueule du loup, au statue aboyé. Mélancolique car la vie m'aura déçu. La mort viendra soigner mes blessures. Sommet comporte beaucoup de sous-entendus. Au fil du temps, nous deux c'est souvent tendu. À présent je réalise que j'ai dû vécu. Alléluia, j'ai survécu. On ne discute pas les goûts et les couleurs. Pour voir la paix, pour rencontrer la douleur. N'approche pas des miens, je t'égore si tu essaies. 11h40, heure du décès, la source du problème, c'est comme ça qu'on m'appelle. J'ai creusé ma tombe en manquant à l'appel. T'attaches pas à moi, tu risques de couler, chérie. Le temps de réaction est écoulé. Dehors, c'est la guerre, reste à la maison. Garder espoir peut faire perdre la raison. Cœur de pierre, madame chargé sous le manteau. Le chat n'est pas là, les souris dansent le mambo. Notre amour ne tient plus la route, car mes sentiments sont partis en lambeaux.
Dans la ville, je suis dans la BM, je ride. Les jaloux.